Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et vous regardez ou vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Catch Up, 43e édition, croyez-le ou non. On va explorer aujourd'hui Monday Night Raw du 20 février 2017 qui se passe à Los Angeles. Et avec moi, pour faire le tour de la question, l'amiral Armbar. Amiral, comment vas-tu?
Salut, ben écoute, je vais très bien, je suis content de commenter ce Raw qui se passe donc au Staples Center de Los Angeles, que je connais bien. J'ai jamais vu un show là-bas, à chaque fois j'ai loupé SummerSlam quand c'était Los Angeles, j'étais jamais là-bas, mais voilà, j'ai eu des bons concerts quand même au Staples Center, donc je suis content de commenter ce Raw-là.
Bien belle salle, pleine de souvenirs pour l'amiral.
Ouais, complètement.
Et des souvenirs, on va en avoir ce soir. Alors au programme, Kevin Owens s'explique, Brock Lesnar s'explique également, Bayley est face à un choix cornélien et Strowman affronte le Big Show. Tout ça ce soir, et ça démarre par quoi? Ça démarre par Kevin Owens, le champion de l'univers, ce saligo qui, la semaine dernière, a détruit son meilleur ami, Y2J, le champion US, Chris Jericho. Il a passé à tabac, il a trahi l'amitié. Et ce soir, il est au centre du ring, à califourchon, sur une chaise. Le public est plongé dans le noir et il y a un spotlight qui tombe sur lui. Il est au centre de toutes les attentions. Ce soir, il nous explique qu'effectivement, le spotlight est pour lui, qui va pouvoir s'expliquer. Il raconte qu'il y a tant d'années, si on lui avait dit qu'il se retrouverait dans un pay-per-view de la WWE à défendre son titre face à Goldberg, eh bien, il l'aurait pas cru. Mais il savait quand même qu'il serait dans un pay-per-view pour défendre sa ceinture. Mais Goldberg n'a jamais impressionné. Si Goldberg a réussi à battre Brock Lesnar, c'est parce que Brock Lesnar a sous-estimé Goldberg, que Goldberg a été chanceux. À Fastlane, Kevin Owens va jouer l'intelligence. Il aura juste à faire durer le match, hein, parce qu'on sait que Goldberg, si les matchs durent longtemps, bah il est pas très bon. Voilà, Kevin Owens, il est le meilleur pour le jeu. He knows how to play the game. Il va pas se laisser utiliser pour alimenter la fantaisie de Goldberg là, qui se prend pour un super héros. Hein, il a bien expliqué qu'il voulait catcher pour impressionner son fils, enfin pour catcher une fois devant son fils et sa femme, montrer aux gens, hein, qu'il est un héros. Kevin Owens, lui, il va prouver que les super-héros, ça n'existe pas. Et pour conclure, il pastiche la catchphrase de Goldberg, hein, parce que Goldberg est toujours « you're next ». Kevin Owens, il explique « you're nothing ». Tu n'es rien. Mais il reste une chose à expliquer pour Kevin Owens. Il y a un sujet qu'il doit aborder, c'est Y2J. Donc pour ce qui concerne Chris Jericho, eh bien Kevin Owens se lève et il jette son micro par terre. Voilà, il n'y a rien à dire sur Chris Jericho, il s'en va. Ainsi se termine cette ouverture de show. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon bon amiral?
Bah, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cette promo. Vraiment, c'était sobre, voilà, tout était simple, le spotlight sur Kevin Owens, il raconte son texte, il est bon au micro comme on le connaît, il met l'emphase sur les bons mots, ça marche. Vraiment là pour le coup, même s'il avait été booké assez faiblard sur son run de champion, là on le sent vraiment, ok, je peux me le faire Goldberg, c'est pas un souci, j'assume, il n'y a aucun problème. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette promo, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il n'adresse pas la question Chris Jericho. Ça, je trouvais plutôt malin, plutôt qu'on ait la réponse ou qu'on ait les éléments, qu'on sache ce qui s'est dit entre Owens et Triple H la semaine dernière. Maintenant c'est un peu dommage, hein. Donc du coup faire du suspense là-dessus, c'est cool. Donc vraiment dans chouette promo, puis voilà la pastiche de la phrase, la catchphrase de Goldberg, you're nothing, ça marche. Donc moi je suis content.
Efficacité, hein, Kevin Owens qui là au milieu du ring, qui joue enfin sa position de champion de l'univers. Effectivement, on est content de le voir comme ça face à la caméra, cracher son venin. Bon, maintenant, moi je trouve que ça sent un peu l'écriture, c'est un peu dommage. C'était un petit peu long, mais le coup du fait de jeter le micro à la fin, ça c'est ça, ça rattrape un peu la chose. Puis ça fait du bien de commencer comme ça par le champion de l'univers au milieu du ring, le spotlight sur lui. Un certain charisme quand même qui se dégage de Kevin Owens,
Ouais, il est bon au micro, on le savait. Là, il revient dans son attitude de plus dominatrice, assurée du match. Et en plus, son argumentation elle tient debout. C'est ok, les matchs de Goldberg, bah, à chaque fois, ils étaient super courts. Donc, et d'ailleurs, je sais pas, est-ce que toi, t'as suivi Goldberg à la WCW? Est-ce qu'il avait fait des matchs qui avaient dépassé la minute ou la 2 minutes, comme on le voit régulièrement dans les playbacks, mais.
Bah, il en a fait quelques-uns quand c'était l'heure des grands affrontements, mais la plupart du temps, toute sa streak où il était invaincu, c'était des squash sur squash. Puis ce sera sûrement un match assez rapide, je pense, à Fastlane, mais c'est vrai que là-dessus, ça tient debout, hein, son argumentation à Kevin Owens, donc du coup, c'est efficace, ça
Ouais.
fonctionne.
On se dit, et s'il avait raison, et s'il suffisait à Kevin Owens de survivre, entre guillemets, quelques minutes, 4-5 minutes contre Goldberg, voilà, on l'a vu tellement peu de fois, du moins c'est pas comme ça qu'on nous le présente, Goldberg, hein, un personnage qui fait des gros matchs, bah pourquoi pas. On peut
Le
peut-être y
doute.
croire. Ouais,
Le
le doute est
doute
là, et
s'insinue.
puis, encore une fois, maintenant on le voit là en costard, c'est pas un hasard, hein. Et on l'a quasiment jamais vu en
Il y
costard.
a cette petite remarque, hein,
Et c'est ça.
sur The Game. Qui c'est qui sait jouer
Exactement.
le jeu?
La semaine dernière, on l'a vu discuter avec Triple H. On sait qu'il y a une autre personne qui roule pour Triple H et qui est en costard, c'est Samoa Joe. Donc, dans quelle mesure il n'y a pas une sorte de trinité entre Triple H, Samoa Joe et Kevin Owens? Et est-ce que, bah, du coup, les deux autres vont pas aider Owens lors du match? Parce que, de toute façon, ce qu'on a vu sur la séquence la semaine dernière, quand il a trahi Craig Jericho lui disait: « Je te garantis d'être encore champion de Bad Goldberg en t'aidant. » Et on sait que Owens, ce qu'il veut, c'est être champion et rester champion. Donc, s'il a trahi Jericho, c'est qu'il y a une assurance, une garantie qu'il estime supérieure, en toute logique, à celle de Jericho. Et quelle meilleure garantie qu'avoir Triple H et Samoa Joe en renfort lors de son match contre Goldberg. Donc,
On
ça
peut
serait
aller imaginer
logique. Ouais.
à la création d'un clan, hein. Samoa Joe, Triple H, Kevin Owens, ça pourrait être parti pour un truc sympa.
Ça pourrait avoir de la gueule. Une sorte
Ça pourrait avoir bien de la
de
gueule,
nouvelle
hein.
autorité. Et voilà. Surtout qu'en plus, soyons clairs, le match Lesnar Goldberg n'a aucunement besoin d'avoir la ceinture en jeu pour avoir de la hype. Enfin, je veux dire, c'est.
Ouais, ce serait dommage de s'accaparer le spotlight entre guillemets de la ceinture pour deux monstres qui ont pas besoin de ça en vérité. Mais bon, ils ont teasé cette espèce de règne de Goldberg, donc savoir, ça dépend. Je pense que ça dépend du contrat qu'ils ont avec Goldberg, s'il va vraiment s'arrêter après Mania, ou si ça peut aller plus loin, on sait jamais, hein, peut-être re-signer pour une année avec quelques dates. Enfin, voilà, bah, le doute s'insinue. Un petit suspense qui se crée. Donc plutôt efficace cette entrée de show. On va avancer un petit peu. La suite des opérations, c'est Cesaro et Sheamus qui vont affronter Enzo Amore et Big Cass pour une place d'aspirant numéro 1, l'équipe aspirante numéro 1 au titre des champions, qui sont détenus toujours par Karl Anderson et Luke Gallows. Un match assez classique, hein, où le bon Enzo se fait démonter à peu près toute la durée du match par notamment ce Cesaro, hein, qui fait le gros du match quand même, avec toujours des bons uppercuts à l'européenne. Enzo réussit, enfin du moins dans un premier temps, Cesaro tente de placer un neutralizer sur Big Cass, hein, qui a quand même réussi à faire le tag à un moment donné, mais qui arrive finalement à se faire contrer. Mais Big Cass arrive à faire passer par-dessus ses épaules ce bon vieux Cesaro, qui atterrit sur ses pieds. Mais là, il y a Enzo qui lui saute dessus. Ça distrait Cesaro, qui se fait surprendre par Big Cass, qui lui place un black hole slam. Et c'est la victoire de surprise générale de Big Cass et d'Enzo Amore, qui iront donc affronter à Fastlane Karl Anderson et Luke Gallows. Et après le match, on a le petit Enzo qui se moque de Cesaro en disant le Superman suisse, on est à Kryptonite, ah, on est à Kryptonite. Et là, il se mange un méchant broc kick de la part de Sheamus qui lui fait fermer sa gueule. On a le droit au ralenti, c'est très 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 joliment exécuté. Voilà, petit retournement de situation là dans la division tag team. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça?
Alors moi, le plus gros retournement de situation, c'est pas tellement que ce soit Soft qui gagne, parce que The Club, enfin Gallows Anderson versus Cesaro Sheamus, on l'a déjà vu. On l'a vu en plein configuration, en match simple, en match par équipe, etc. Donc du coup, ça faisait un peu réchauffer si on leur mettait la carte. Donc afin de pouvoir un peu brasser cette division tag team, ou comme on dit, semaine après semaine, il y a un peu des problèmes de booking, donner un title shot à Soft, ça me paraît à la limite logique et la chose à faire. Pourquoi pas? Je suis pas enthousiasmé de voir le match, mais ça me paraît pas incohérent. Non, le vrai retournement de situation, moi, que j'ai noté, c'est que quand, à la fin donc du match, ou quand justement Enzo fait sa promo en se moquant la gueule de Cesaro, on a trouvé la kryptonite, le broquille de Sheamus, le public, qui était audible, c'est-à-dire qu'on l'entendait en regardant le rond, qui disait « Merci Sheamus ». Merci Sheamus, merci Sheamus. Et jusqu'à présent, quand même, Enzo avait la méga cote auprès du public. J'ai l'impression, Soft était super, super over. Donc, est-ce que le public, comme moi, ne commence pas à en avoir ras-le-bol de voir Enzo Amore répéter les quatre mêmes phrases semaine après semaine après semaine? Alors, certes, il a un talent au micro, il fait à chaque fois des nouveaux petits trucs qui sont sympas, mais à un moment donné, c'est un peu relou, quoi.
Ouais, ils ont fait leur promo d'entrée, c'était la promo classique. Ils ont sorti les phrases standards, il y avait rien d'original. Mais face à eux, Sheamus et Cesaro, ils sont super populaires aussi. Donc du coup, c'est deux grosses pop là qui s'affrontent. Mmh. Et après, le public, il a tendance à chanter tout et n'importe quoi un peu en ce moment. Il a des réactions vraiment vraiment bizarres. On le verra un peu plus tard dans l'émission encore, mais je commence à plus trop me fier au public des salles, parce que des fois il s'enflamme pour des choses qui ont un peu à côté de la plaque.
Ouais, c'est plus qui disait sur internet dans les sites de catch qu'en fait le public était fan de leur propre chant, en fait, plus que de ce qui se passait dans le ring parfois.
Là, on a on aura des This is awesome un peu à n'importe quel moment. Alors par contre, moi j'étais assez déçu par la performance de Big Cass, qui était j'ai trouvé pas out of shape quoi, et pas vraiment convaincant dans le ring. J'ai l'impression qu'il régresse un peu au niveau de son talent entre les cordes. Alors qu'on a toujours considéré que c'était un peu Enzo le maillon faible dans l'équipe quand il s'agit de faire du spectacle, mais là Enzo, j'ai trouvé vraiment moyen. Du coup, pour Fastlane, je suis pas trop emballé de voir cet affrontement entre Gallows et Anderson et cette Team Soft qui sont tous les deux sont un peu salement bookés à chaque fois qu'il faut faire un match, donc J'ai peur qu'on se retrouve encore sur un truc un peu anodin, quoi.
Ouais, c'est comme souvent. Est-ce qu'ils vont leur donner du temps, suffisamment de temps pour construire un truc intéressant? Est-ce que les deux équipes vont réussir à trouver une alchimie aussi? Ça, je sais pas. Il y a une grosse inconnue en tout cas sur le match. Après, ça peut être vraiment bien, ça peut être pas mal, mais comme ça peut être complètement anecdotique, comme tu dis, et naze. On verra bien. Un rendez-vous à faire.
On verra bien.
C'est ça.
Surprise. Voilà. En tout cas, une rivalité qui se boucle sans que les personnes se croisent un petit peu, hein, c'est en parallèle. Donc voilà, on verra bien s'il y aura de l'intensité dans ce match, mais il y a quand même la ceinture en jeu, donc faut pas rigoler. Alors, continuons le fil de l'émission. On retrouve Kevin Owens qui est en train de quitter le building. Il est rattrapé par Mick Foley qui lui annonce que il faut pas qu'il parte tout de suite, parce qu'en fait il a un match avec Sami Zayn. Donc là, il ricane, Kevin Owens, il dit, je sais pas si c'est très malin ce que tu fais là, tu vas encore te retrouver avec une superstar à l'infirmerie, tu devrais changer un petit peu de politique, hein, Mick Foley. Ensuite, on a un petit clip sur la victoire de Bayley, un peu toute sa carrière, tout ça, c'est joliment fait. Et on apprend que Charlotte, via Twitter, a demandé à ce que Bayley rende la ceinture, puisque la semaine dernière, hein, souvenez-vous, Bayley a remporté le titre des Divas, enfin le titre des Women, pardon, oulala, sacrilège, en battant Charlotte, mais grâce à l'intervention de Sasha Banks, qui est venue mettre quand même un coup de béquille dans Charlotte. Donc voilà, donc c'est un peu litigieux cette victoire. On verra un peu plus tard ce qu'il en est. Bon, on va peut-être y aller tout de suite. Allez, allons-y. Ce segment avec les filles, donc c'est Bailey, donc on voit d'abord dans les coulisses, donc elle embrasse un petit peu les gens qui sont là, elle fait des câlins, hein, comme d'habitude, elle arrive au ring, et donc elle nous explique que voilà toute sa jeunesse, elle regardait le catch et puis elle voulait être catcheuse et elle voulait être championne de la division féminine.
Merci, on
voilà,
sait.
Elle a... Voilà, hein, c'est très très original. Donc elle explique qu'elle a vécu en Californie, hein, je sais pas si le public le savait, mais voilà, donc petit pop comme ça fait pas de mal. Alors elle explique qu'il y a son papa dans les gradins, mais on ne le verra jamais, son papa. Hein.
Papa, il doit être moche.
Je l'ai fait. Voilà, je sais pas, soit il a peut-être un tatouage nazi, j'ai pensé peut-être sur le visage, qui fait qu'on ne peut pas le montrer à la télé ou quelque chose comme ça.
Ça ferait une super gimmick, hein, ceci dit. Je suis sympa parce que j'ai été élevé par un ancien nazi et j'ai pas supporté son éducation. Ça changerait un petit peu de ce qu'elle nous raconte semaine après semaine.
Un peu d'originalité. Donc voilà, ça c'est je pense que c'est du pipeau qui n'était pas du tout là, hein, son père. Mais bon. Stephanie McMahon débarque. Donc elle vient pour convaincre Bailey de rendre la ceinture, effectivement, puisque voilà, c'est litigieux. Alors elle essaye de faire marcher un peu la corde sensible de Bailey pour la convaincre. Voilà, explique qu'est-ce que tu veux. Voilà, il y a ton père qui est là. Elle dit je sais pas où est ton père, mais il est là quelque part dans le public. Et voilà, qu'est-ce que tu veux lui donner comme image, quelqu'un qui a triché. Voilà, pour ton premier titre, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Là, il y a Sasha Banks qui débarque, et elle vient défendre Bailey. Alors c'est très hargneux entre elle et Stephanie McMahon, hein, donc on est là, elle la traite d'ordure quand même, Stephanie McMahon, voilà, elle dit Bailey, écoute, n'écoute pas Steph, conserve ta ceinture, c'est ton rêve d'enfant. Bailey reprend le micro. Là, elle prend la foule à témoin. Elle dit, alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous voulez que je rende la ceinture? Est-ce que c'est la chose à faire? Et là, hell no! C'est elle la championne. Et si elle est championne, c'est grâce à l'univers de la WWE, grâce aux fans. Donc, elle va conserver la ceinture pour les fans, la défendre pour les fans. C'est pas grave s'il y a eu tricherie. Ça arrive à tout le monde. Et là, c'est donc Charlotte qui débarque. Hein, parce qu'il manquait Charlotte encore. Elle réclame sa ceinture, elle gueule un peu, et du coup, plutôt que lui donner la ceinture, au final, elle aura un match contre Sasha Banks. Et donc ça, ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, qu'est-ce que t'as pensé de toute cette partie-là sur les filles?
Alors, j'aime bien le fait que Steph intervienne, voilà, qu'elle se mouille sur les matchs et qu'elle garde un petit peu la place qu'ils avaient voulu donner à mon nez par rapport à la division des filles, donc ça c'est plutôt pas mal. Comme on l'avait dit, hein, elle joue un petit peu la même partition qui avait été jouée par l'autorité contre Daniel Bryan à son époque, donc ils reproduisent un petit peu ça, et pourquoi pas, ça peut marcher avec Bailey, donc faisons-le. Personnellement, j'aurais presque préféré que Bailey rende la ceinture, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais
j'aurais été plus original.
J'aurais trouvé ça surprenant et j'aurais trouvé que ça aurait encore plus rendu Steph méchante, Charlotte aussi. Alors pas forcément que la ceinture revienne à Charlotte de suite, hein. À la limite qu'elle soit remise en jeu sur un match à Fastlane. Et que cette fois-ci, il y ait une stipulation ou une composition qui fasse qu'il n'y ait pas de doute quant à la victoire. Mais en fait, par rapport au personnage de Bailey, qui est voilà, ce qu'on veut, la face ultime, un peu la John Cena, version fille, version moderne, avec le côté des petits enfants, hug, etc. Bah, j'aurais trouvé ça pas incohérent que son personnage dise « Ok, j'ai pas envie effectivement que mon moment, le moment où je suis championne, soit contestable et que ce soit contesté. » Et même s'il y a eu intervention avant de Dana Brooke et puis de Sasha Banks, au final, c'est une intervention pour une intervention. Mais en fait, je sais que je peux battre Charlotte clean. et je vais le prouver. Donc je la rends, la ceinture, mais je sais que je vais la remettre la main dessus dès que j'aurai mon match. Et j'aurais trouvé que ça aurait vraiment mis, genre, ok, classe, très classe, Bailey, bravo. Enfin, je sais pas, je trouve que ça irait avec le personnage. Donc, okay. Donc voilà, là, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est plus attendu, c'est plus convenu, on n'y croyait pas, et j'aurais aimé être surpris, et encore une fois, cette surprise, je pense, n'aurait pas été déconnant vu le personnage de Bailey. Donc, c'est mon petit regret sur le segment.
Ouais, c'est très basique ce qu'ils font. Moi, je pensais qu'ils allaient vraiment monter Sasha Banks contre Bayley avec une Bayley qui aurait dit ouais, t'aurais pas dû intervenir, tu m'as entaché ma victoire, etc., etc. Et commencer un espèce de heel turn de Sasha Banks. Mais ils sont pas du tout partis là-dessus au final. Hein. On est sur un truc vraiment très 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 classique. Bayley seul au micro dans le ring, il y a des petits ratés, c'est un peu c'est pas encore ça. Bon, après c'est les débuts, hein. On savait
Ouais,
que ce
faut
serait un
du
peu
temps.
difficile pour elle de tenir la ceinture, hein. Ça fait un peu terne comme championne, mais
Bah, à part Charlotte au micro seul, il y a personne qui tient vraiment 3 minutes et demie seule dans le ring. Et encore Charlotte au début c'était pas ça, donc c'est vrai qu'elle a mis du temps, elle a progressé, donc faut laisser ce temps-là aussi aux autres comme Bayley.
Il faut qu'elle s'affronte, faut qu'elle fasse des clashs un peu. Alors, du coup, on a un match entre Charlotte et Sasha Banks. Ça, c'est pas pour me déplaire, hein, parce que c'est un peu ce que je préfère dans le catch quand Charlotte affronte Sasha. Donc, bah, c'est un très bon match, hein, si vous avez l'occasion de le regarder. N'hésitez pas. Elles déploient tout leur arsenal, c'est fluide, c'est efficace. Et ça se termine sur une victoire de Sasha Banks pour le coup, qui arrive à placer son backstampement après que Charlotte ait été perturbée, je crois, par celle qu'on ne voit plus à la caméra, Dana
Brooke.
Brooke, qui arrive à ne pas être filmée, même quand elle agit.
Je pense que c'est une actrice, c'est une doublure en fait, c'est plus elle.
Ouais, je suis pas
Il y a un
sûr que c'était
truc.
la vraie. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match qui était très bon, hein, mais on l'a déjà vu 1000 fois un petit peu quand même.
Ouais, on l'a vu, il y avait des enjeux plus importants et avec des stipulations plus intéressantes. Donc, c'est un peu la complexité quand on nous met des matchs de bons performeurs, la performance pour l'occasion, mais qu'on en a vu beaucoup en peu de temps, on devient difficile. On a un peu la dent dure, alors que le match en lui-même est super bien. Vraiment à hauteur des matchs qu'on aimerait voir tout le temps, mais c'est vrai que ben, comme on a vu des affrontements complètement titanesques entre les deux, celui-ci se hisse pas à ce niveau-là et c'est pas grave parce qu'on peut pas toujours avoir des matchs extraordinaires et fabuleux à chaque fois qu'elles se rencontrent. C'est juste comme on a un roster qui est assez faible hein, chez les femmes, que ce soit à Raw ou à SmackDown, eh bien on a tendance à revoir souvent les mêmes affrontements. Un peu à l'image d'un Sami Zayn, Kevin Owens, qui sont des matchs
On
géniaux,
verra, ouais.
mais qu'on a vu plein de fois déjà. Donc le match était cool, voilà,
C'est
c'est
ça.
cool. On sait que ça délivre, qu'elles font le boulot, et c'était le
C'était
cas.
cool.
Ouais. Et là, le fait qu'il ait la victoire de
Un
Banks, eh ben,
bon, bon.
ça remet peut-être aussi Banks dans le mix, dans l'enjeu par rapport peut-être au titre aussi, hein, de façon immédiate
C'est
ou
ça.
très prochaine.
Exactement. Ça la recrédibilise un peu.
Ouais.
Voilà, un match bien à regarder. Bon, effectivement, après, il n'y a pas grand-chose à commenter dessus, mais on passe un très bon moment, encore une fois, avec Charlotte et Sacha, qui ont quand même du talent à revendre. Hein. Alors, on va avancer. On va revenir plutôt dans l'émission avec Mick Foley, qui s'entretient avec Roman Reigns. Roman Reigns qui débarque et qui veut évidemment affronter Braun Strowman. Là, puisqu'il s'est fait démonter la tête plusieurs fois par Braun Strowman, hein, qui lui a coûté le titre plusieurs fois. Bon, Mick Foley lui explique que je sais pas si t'es au courant, je sais pas si t'as l'internet chez toi, mais il y a le match qui est déjà booké depuis une semaine entre Strowman et Big Show, donc il est un petit peu occupé cette semaine.
Lis
Toi,
la
il est un peu
presse,
plus
Roman,
tard.
lis la presse.
Je
Voilà.
ne sais pas,
App app
renseigne-toi,
apprends
intéresse-toi
à
un peu à la
lire.
boîte.
Apprends à lire déjà et
Voilà.
puis tu sauras.
Et donc bah là il y a Gallows et Anderson qui débarquent et bah voilà, comme il n'avait pas de match bouclé, Roman Reigns, bah maintenant il a un match contre Gallows et Anderson. Mick Foley lui dit écoute, tu trouves un partenaire, et puis c'est parti, hein, tag team match, playa. Roman Reigns lui dit non, c'est bon, pour gérer les deux guignols là, je peux le faire tout seul, il n'y a pas de souci. Donc on aura un petit peu plus tard un Roman Reigns face au club dans un match handicap. Donc, la dernière fois, hein, et ça t'est déjà arrivé, hein, la semaine dernière, puisque maintenant, Gallows et Anderson sont sur Roman Reigns, hein, c'est-à-dire voilà, ils veulent le remettre à sa place. La semaine dernière, ça s'était terminé par une disqualification du club, qui était resté à deux dans le ring pour tabasser Reigns. Cette semaine, ça se termine par Roman Reigns qui est disqualifié, puisqu'il a utilisé une chaise, hein, Karl Anderson avait ramené une chaise pour essayer de l'attaquer dans le dos. Mais il a réussi à se défendre, Roman Reigns. Une chaise, ça suffit pas, il faut un peu plus, hein, il faut peut-être une rangée de chaises ou quelque chose comme ça.
Un
et,
banc.
Un
banc, un je
banc,
pense. Ouais.
Voilà. Un ou deux bancs. Ou un rocking chair. Je ne sais pas. Donc voilà, disqualification de Roman Reigns, mais il passe à tabac les deux champions. Voilà, donc il ressort victorieux de cet affrontement. Prestation un peu pauvre, hein, du club, hein, malgré les ceintures. C'est pas encore ça. Faut pas s'attaquer à Roman Reigns. Je sais pas pourquoi ils insistent.
Ah ben c'est pourquoi les bookers insistent. C'est pourquoi les bookers insistent en fait. Ouais. Hein. J'imagine bien qu'on les mette dans le ring en disant bon voilà les gars, bon ce soir, ben vous allez combattre contre Roman Reigns et bon vous gagnez par disqualification, mais la consigne c'est qu'il faut qu'il look strong. Hein. Faites tout pour que Roman look strong. Et ça va être super puissant pour eux, quoi. C'est ok. Pourquoi il va pas les défier à Fastlane? Il y a déjà un match, c'est vrai, mais pour le titre par équipe, peut-être qu'il peut être champion par équipe seul. Pourquoi pas?
Voilà, il peut pas se trouver un copain, il a pas d'amis, c'est ça, personne ne l'aime. Non, il est tout seul dans les vestiaires, il parle tout seul.
Alors j'annonce une équipe, le bras droit de Roman Reigns et le bras gauche de Roman Reigns contre le club pour les titres.
Et il pourrait gagner encore.
Ben oui.
On va le voir.
Ou alors, si il perd, c'est parce qu'il y a eu une triche en face, quoi.
Ouais, bah oui. Ils sont pas assez costauds, les deux champions du Japon, là. Mais voilà, c'est pas ça qui va sauver la division tag team, hein, du coup. Ça,
ah bah non.
Et puis,
non.
Roman Reigns, toujours hué par les fans. Hein. Voilà pour ce petit passage avec le beau Roman. Chez les Cruisers, Brian Kendrick affronte Akira Tozawa. Alors à 205 Live, Akira Tozawa a refusé l'aide de Brian Kendrick, qui voulait en faire son petit acolyte, il voulait être son mentor. Akira Tozawa, il dit non, moi je t'aime pas, je te connais, je ne t'aime pas, dégage. Et donc ce soir ils vont s'affronter, ils vont régler leur compte. Donc Kendrick, grand prince, va pour serrer la main de Akira Tozawa. Tozawa, il hésite, il fait comme ça, comme d'habitude. Et il finit quand même, hein, par aller essayer de serrer la main, mais là, Kendrick, il en profite, il lui met une corde à linge, et après, il lui fait le coup de l'oreille cassée, c'est-à-dire qu'il enlève la protection du ring, et puis il lui met la tête, l'oreille la première dans le coin du ring. Donc ça fait mal, hein, un coup dans l'oreille de coin du ring. Et après, il lui le place dans le Captain's Hook, hein. Sa prise de finition, son prise de soumission. Le match n'a pas commencé en fait, donc ça s'arrête là. Hein, Tozawa à moitié dans les vapes. Et on retrouvera Brian Kendrick un peu plus tard. Il est interviewé par Charlie Caruso qui est venu avec les jumeaux. Et il nous explique que c'est la première leçon pour apprendre le respect à Akira Tozawa, ce qui s'est passé ce soir. Cette petite rivalité là entre ces petits cruisers, est-ce que ça te donne des petits commentaires?
Bah encore une fois, on peut trouver ça anecdotique, on peut se dire ok, on leur donne pas assez de temps pour les matchs, là il y a même pas eu de match, et à la limite c'était pas mal. Moi j'aime bien que malgré tout les critiques qu'on entend et qu'on voit sur les cruisers qui sont à juste titre, hein, parfois ils essaient quand même à chaque fois de nous donner deux segments par soirée par row avec des storylines qui développent entre tel ou tel personnage. Alors le problème c'est qu'ils sont pas très suivis à row parce qu'elles continuent à 205 Live, donc on envoie des petits bouts, on voit le début, un peu le milieu, un peu la fin, mais bon ok, ils continuent à faire des choses avec, donc on avait un peu peur qu'ils laissent complètement tomber cette écurie là, qu'elle continue. Je trouve ça plutôt positif. Ok, ça permet d'installer Tozawa en face, en opposition à Kendrick, l'homme avec un plan qui essaie de lui apprendre la vie à la rude, à la dure. En plus, ça a pris 3 minutes, quoi. En 3 minutes, il raconte un truc. Je préfère voir 3 minutes comme ça, qui raconte un truc, même si je me dis, ok, Tozawa, Kendrick, je m'en fous un petit peu, que des choses chiantes sur des plus grosses stars qui sont déjà vues 100 fois et qui sont pas très bien faites et qui sont pas intéressantes. Donc ce segment, moi, j'étais plutôt satisfait, quoi.
Ouais. Le seul souci, c'est qu'effectivement, il faut aller regarder 205 Live si tu veux les conclusions et tout ça. Mais c'est bon, c'est pour aussi monter un peu le 205 Live qui marche pas des masses, d'après ce que j'ai compris.
Non.
Mais il y avait de grosses rumeurs, hein, comme quoi ils allaient lâcher les cruisers à Raw, etc. Mais
Ouais.
je suis pas sûr que ce soit fondé, parce que même si ça marche pas plus que ça, ils ont comme projet de faire des house shows 205 Live, donc
Ok.
ils continuent avec le truc, ils vont pas lâcher tout de suite. Donc
Non, de toute façon,
à terme, on
ils ont
sait pas.
besoin de ce contenu pour la troisième heure de Raw. Ça leur fait quand même par show une petite demi-heure, hein, qui sont remplis par les
C'est
cruisers, mine de rien.
ça.
Et puis même si on regarde pas 205 Live, ils nous mettent des petits vidéos récap de ce qui s'est passé avant, et en une minute, on
C'est ça.
comprend globalement ce qui se passe, et voilà. Donc voilà,
Donc
les
bon, ça coûte
Cruiserweights
rien
ont une
d'aller jeter
vie.
un coup d'œil.
Voilà.
Ils ont une vie, pas une
Ouais.
vie chez les Cruisers. Et quand on parle de trucs nuls avec des stars plus connues, il est temps de parler du New Day qui affronte ce soir Rusev et Jinder Mahal. Alors on apprend que les New Day, ils ont été faire les cons à une émission de télé qui s'appelle TMZ Live.
Ouais.
Comment s'appelle-t-il? Xavier Woods est arrivé à 1 million de followers sur sa chaîne YouTube Up and Down Down. Ils vont faire les voix pardon d'un spin-off du Roi Lion là ou d'une suite du Roi Lion. Je pense directement en vidéo ou un truc comme ça.
Ouais.
Et ils sont toujours sur leur crème glacée. Mais surtout la grosse info c'est ce qui seront les hosts de WrestleMania. Donc voilà, ça veut dire pas de match booké hein, pour le New Day. Ils font la présentation de Mania. On les verra dans plein de segments faire les cons. Voilà, et donc ils sont toujours sur leur projet de crème glacée. Et donc on se souvient que la semaine dernière, Bo Dallas avait déchiré les blueprints de la machine à crème glacée, ou je ne sais ce que c'est. Et cette semaine, ils sont tous sur numérique, ils ont ramené des tablettes. Et par contre, Lana a apparemment hacké leur tablette, parce que sur sa tablette à elle, elle a voilà, une tablette de ce style. Vous voyez, si vous avez la vidéo, c'est une espèce d'ordinateur. Sous forme de miroir où ça fonctionne comme un ordinateur standard. Enfin bref. Donc Lana a les plans sur sa tablette à elle, donc ils se rendent compte qu'ils ont été hackers. Alors ils disent c'est normal, c'est une ruse. Hein, référence à l'actualité. Alors là-dessus, on a quand même un match qui se fait. Et donc à un moment donné, Xavier Woods vient derrière Lana, il lui fait un coup de trombone, elle jette sa tablette en l'air et Xavier Woods attrape la tablette et il détruit la tablette. Et les New Day gagnent le match en parallèle. Alors, c'était bien, Amiral?
Alors déjà, c'est contre Rusev et Jinder Mahal, hein. Je sais pas si on l'a dit le match, mais c'était contre Rusev et Mahal.
Ouais, j'ai dit au tout
Ouais, ok,
début. Bon.
c'était tellement anecdotique, je m'en rappelle plus. Le match, il y a rien à dire, c'était un prétexte pour effectivement faire ce segment de comédie. Alors il y a quand même, on voit Lana un gros lag entre le moment où Xavier Woods donne son coup de trombone et le moment où
Ouais.
elle... Oh, elle lance en arrière, pile dans les mains de Woods sa
Ouais.
tablette. Donc c'était un peu mal exécuté, pas très coordonné. Bref, c'est assez anecdotique. L'information importante, c'est le New Day, host de WrestleMania. C'est vraiment ça qu'il y a à retenir.
C'est
Est-ce que
ça.
c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Dans le rayon des bonnes choses, bah, ils n'auront pas de match. Je pense que ça, c'est... On aura la carte un peu clinée de ça. Bah peut-être à la limite les laisser faire justement de l'entertainment, de la comédie. Ils n'ont pas le storyline actuellement, hein. Ils se battent là contre Rusev et Mahal, la semaine dernière contre Bo Dallas, etc. On se rappelle la dernière WrestleMania, leur entrée dans la grande boîte géante de Booty Boys. C'est plus ça qui a marqué que leur match, clairement, l'année dernière. Donc je pense que c'est pas mal de les avoir en showman plutôt que catcher, là pour le coup, c'est à voir ce qu'ils vont faire, mais why not?
Ouais, dans l'absolu, ça peut être sympa, mais c'est un peu la facilité, quoi. On sait pas quoi en faire, ben ils feront l'animation. Hein.
Bah, ils mettent
C'est
toujours
pas
quelqu'un pour
grave.
faire l'animation, donc pourquoi pas les New Day qui sont des full-timers, qui sont là tout le temps et qui vont avoir leur...
Ouais, mais attention, parce qu'ils font souvent des segments qui sont un peu pourris. Hein.
Ouais,
Pas
bah...
qu'ils nous fassent ça à la seule manière, ce serait chaud quand même.
Non, non, non.
Mais
Ceci
bon,
dit, à WrestleMania, on
si de
n'a
toute façon,
pas...
si c'est pour faire la même chose qu'ils a... S'il faut faire la même chose qu'ils avaient fait l'année dernière, qui était quand même, c'était un match où la ceinture était pas en jeu
Non.
face à la League of Nations, et puis se faire taper dessus par les vieux, finalement, autant qui fasse l'animation.
Hein. C'est ça, je pense que de toute façon, voilà, le métier de superstar à WWE, c'est une part catcher et une part entertainer. Et là, ben, je pense qu'ils sont vraiment très sur entertainment. Et c'est aussi les valoriser là-dedans que les mettre host de WrestleMania plutôt que de rappeler une star qu'on a déjà vue 15 fois et qui n'est pas très intéressante. Ok, pourquoi pas. Et puis peut-être que ça sera l'occasion aussi de surprises, qui sait. J'espère. De bonnes surprises.
Là, on voit le verre à moitié plein. Hein. On est optimiste à fond. Hein.
Non, mais parce que secrètement, en fait, j'espère que dans un des segments, ils disent de toute façon, voilà, on ne fait pas de match, mais on est les hosts parce qu'on est la meilleure équipe de la WWE, c'est New Day. Et là, débarque The Revival pour dire, hé hey, les cocos, non, c'est nous les meilleurs, c'est nous les top guys. C'est pour ça que je vois le verre à moitié plein. J'espère que ça va se passer comme ça.
Ah, si seulement ça montait un petit peu là, toutes ces équipes des NXT qui font rêver.
Ça y est.
Voilà. Si c'est pas Mania, ce sera après, de toute façon. La suite des onémopérations. Hommage à George The Animal Steel qui nous a quitté la semaine dernière.
C'est une hécatombe en ce moment. Hein.
Ouais, l'hécatombe.
Toutes les semaines, il y en a un ou deux. Ouais.
Alors. Bon, un vieux de la vieille, hein. Lord George Animal Steel, les vieilles époques, hein. C'était le gentil monstre, hein. Un peu demeuré, qui faisait peur, qui mangeait les coins du ring. Voilà, je l'ai connu qu'en fin de carrière, donc j'ai pas grand chose à raconter sur ce gentil genre. Sinon, regardez le film dans lequel il a joué, Ed Wood de Tim Burton. C'est un des meilleurs films de Tim Burton et peut-être un des meilleurs films de tous les temps, hein, si on peut aller jusque là. La suite, on est chez les Cruisers avec Austin Harris qui reçoit Gentleman Jack Gallagher et Neville pour la signature du match de championnat pour les Cruiserweight. Donc Neville s'attaque tout de suite à Gallagher en l'expliquant qu'il est une espèce de cliché qu'ont les Américains des Anglais, là, il est ridicule, il est cartoony. Les Anglais sont pas comme ça, ils sont moches comme Neville là, et Rabelais. Ils signent, hein, tous les deux pour le match. Gallagher explique que c'est pas un cliché, il a été élevé comme ça, et que ce Neville là qui se prend pour un roi, ça il peut pas laisser faire. Et donc il va lui apprendre à Fastlane comment ça se passe. Et puis finalement ça se tape dessus et Gallagher met un beau coup de boule à Neville et le tient en respect avec son fameux parapluie de Gentleman. On jette la table aussi à un moment donné. Hein. Voilà, encore un petit passage chez les Cruisers. Un petit commentaire qui va avec, Amiral.
Ouais, pareil, je trouve ça cool qu'on nous montre une signature de contrat pour les Cruiserweight Championship. Ça les met un petit peu, donne un peu l'importance au titre en fait. Hein, et ça fait un segment sur les Cruisers. Là en plus, on a Jack Gallagher qui a de bonne réputation, une bonne appréciation du public. Hein. Le public marche bien dans ses gimmicks qui sont certes cartoonesques, mais ça marche. Neville, depuis qu'il est revenu en King Neville et en heel, je trouve vraiment qu'il a de la gueule, hein, semaine après semaine. Il a de la gueule, ses promos, ça n'a rien à voir avec les promos qu'il faisait quand il était en mode super hero face. Regardez, je fais des tours sur moi-même. Donc, je trouvais ça cool. Voilà, encore une fois, c'était assez court, hein, donc ça mérite d'être court. On passe pas des plombes, c'est pas ça qui nous mange le show, et je trouvais ça plutôt de bonne qualité, quoi. Assez classique là aussi, mais ça marchait. Et sur le côté anglais, vu que les deux sont anglais, c'était pas mal. Le public, tu en parlais tout à l'heure, qui font des chants à la con, bah là c'était tea and biscuits, donc du thé et des biscuits. Puisque donc il y avait sur le décor, il y avait des drapeaux anglais, il y avait des tasses de thé, des petits biscuits secs anglais qui sont dégueulasses. Donc voilà, bon, c'était classique, mais ça fait le boulot. Et ouais, c'est aussi pour ça qu'on aime le catch parfois, c'est voir des choses qu'on connaît déjà, mais prendre vie avec de nouveaux personnages. Moi j'étais pas mécontent de ce segment.
Ouais, rien de scandaleux. Moi je trouve qu'on voit beaucoup de signatures de contrats de matchs, hein, en ce moment. On a eu à SmackDown il y a pas longtemps. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a toutes les deux semaines, alors je sais pas si c'est moi, mais.
Non, t'as raison, ça, et des matchs de titre. En weekly, on voit beaucoup de signatures et beaucoup de matchs de titre, beaucoup plus qu'il y a un an, deux ans, trois ans, etc. Donc, beaucoup. En fait, je pense que pour redonner l'intérêt au segment rivalité, ils feront la facilité qui est de remettre le titre toujours au cœur de la conversation. Donc, si c'est pas un match pour le titre, on va signer le contrat. Ou alors, c'est un match pour le first contender, etc. Ils ont beaucoup de mal de développer des rivalités qui se tournent pas autour du titre.
Ouais, c'est ça, exactement. On va en revenir chez les filles avec Nia Jax, le squash de la semaine de Nia Jax. Alors j'ai plus le nom malheureusement de la catcheuse qui affronte une petite blonde.
Sarah Pierce.
Sarah Pierce. Okay. Yeah. Bon, elle tient pas longtemps dans le ring hein, face
non,
à Nia.
Non.
Interview avec la belle Charlie Caruso. Nia Jax. Alors on lui explique qu'est-ce que tu penses. On lui pose la question qu'est-ce que tu penses de tout ce scandale là autour de la ceinture des filles. Nia Jax a dit le scandale c'est que moi j'ai pas de title shot. J'en ai rien à foutre de qui a gagné comment et quoi. C'est tous des petites filles. Voilà moi je veux mon title shot. Voilà, Nia Jax toujours sur sa lancée de monstre indestructible. Toujours convaincu, toi, rien à redire là-dessus.
Si on pourrait dire que c'est bah que c'est un peu long effectivement de la mettre face à des nobody comme ça. Là ce qui sauve la chose c'est le segment derrière où elle dit quand même I put the champion notice quoi, c'est OK, j'envoie un avertissement à la championne quoi, si elle veut vraiment prouver qu'elle est championne, bah d'homme affronté parce que moi je roule sur tout le monde. Donc j'espère que voilà, on se doute de toute façon, hein, c'est ce qui se murmure et ce vers quoi ça va, que Fastlane on aura un affrontement, enfin, Mania pardon, on aura un affrontement à 4. Donc Charlotte, Bayley, Sasha Banks dont on a parlé précédemment, et donc la quatrième sera logiquement Nia Jax et ça peut être très bien. Donc voilà, faut pas que encore on se retape des jobbers tout le temps. Là elle jouait dessus, elle disait pendant le match, pendant qu'elle balançait la petite blondinette d'un bout du ring à l'autre, elle disait ah, mais c'est ça qu'on me donne. Hein. C'est ça qu'on me donne à manger ce soir, mais sans déconner quoi. Donc voilà, elle joue là-dessus. Encore une fois, c'est pas long, donc c'est pas grave. On stagne un peu de ce côté-là. Ils prennent le temps pour la faire monter dans la carte et dans la discussion. Bon, voilà.
Ils ont pas fait de boulette encore avec Nia Jax, donc le personnage fonctionne toujours. Hein,
ils ont
ce
failli.
Personnage colossal là.
Ils ont failli avec Sasha Fox. Hein. Alicia Fox, pardon. Ils ont failli quand ils ont fait faire une petite promo backstage entre Alicia Fox et Nia Jax.
Ah oui,
ça marchait
ça
pas du tout,
Alicia
c'était
Fox.
Horrible, c'était à chier. Elle n'était pas
c'est
synchro.
Alicia Fox,
c'est ça. En fait,
c'est
Alicia Fox, elle tire les gens vers le bas, en fait. C'est ça. Elle tire vers le bas. Tu vas te mettre à mon niveau de nullité. Non, non, c'est pas bon. Mais sinon, non, sur le ring, etc., il n'y a pas eu de fausse note avec Nia Jax. Pour l'instant, bah, elle combat principalement des jobbers, quoi. À part, elle a eu un match ou deux avec des personnes du roster, mais ça reste assez rare. Donc,
C'est bien, elle rentre, s'insinue dans la rivalité pour la ceinture, un petit peu subtil. C'est pas mal.
C'est un même traitement que Braun Strowman, encore une fois, hein, qui a mis du temps avant d'arriver là où son personnage de monstre le demande d'être. Donc, c'est pareil pour Nia Jax. Vivement Mania.
On enchaîne avec Sami Zayn. Qui est interviewé dans les vestiaires, je crois toujours par la belle Charlie Caruso. Donc, elle lui demande, ben alors, est-ce que t'as pas envie de crier, je vous l'avais bien dit par rapport à cette trahison de Kevin Owens sur Chris Jericho. Sami Zayn, grand prince, il dit, ah, écoute, c'est vrai, peut-être que j'avais raison, mais moi, je suis pas enjoué pour ça. Ça m'attriste quand même de voir cette trahison-là de Kevin Owens. Et il fait un comparatif entre son rival actuel, Samoa Joe, hein, avec qui lui a cassé la gueule la semaine dernière, et Kevin Owens, il explique que c'est deux égoïstes qui pensent qu'à eux, qui n'ont pas peur de briser des carrières, hein, de détruire des athlètes. Et donc, bah, ce soir, hein, il va aller affronter Kevin Owens. Donc voilà, c'est le match Kevin Owens, champion de l'univers, face à Sami Zayn. Sami Zayn arrive au ring, mais il est intercepté par Samoa Joe, qui l'attaque dans le dos et qui le passe à tabac, comme il sait si bien le faire. Des belles droites, des belles gauches dans la gueule. On l'envoie manger le coin du ring, les barricades. Et puis après, on le laisse, on le remet dans le ring. Allez, tiens, hop, en pâture à Kevin Owens. Sami Zayn ne veut pas... ne veut pas être envoyé au vestiaire, il veut continuer, il veut affronter Kevin Owens. Donc le match commence et il se fait détruire par Kevin Owens. Voilà, gros score d'Alain dans le coin du ring, cannonball, pop-up powerbomb, et c'est réglé. 1, 2, 3, Kevin Owens victorieux, Sami Zayn maltraité. Voilà, ce développement, ça t'inspire, mon bon ami?
Alors... pareil, j'étais content de voir que on n'allait pas avoir un match Sami Zayn Kevin Owens, même si la cloche a sonné, c'était pas un match, c'était juste Kevin Owens qui finissait d'enfoncer la bravoure de Sami Zayn au tapis, donc c'était très court au niveau du match, donc ça c'était bien, parce qu'on le dit tout à l'heure, on a vu plein de fois ces matchs entre les deux, j'adore leurs matchs, mais c'est vrai que là, pour rien en plus, sans aucun enjeu, sans rien, c'était, je me dis, mais pourquoi il book un match Zayn Owens? Donc j'étais content de voir Samoa Joe débarquer et défoncer Zayn, ils capitalisent sur ce qu'ils ont commencé à mettre en place, une rivalité entre les deux, Joe qui gueule encore, quand tu prononces mon nom, tu dis, tu as du respect pour mon nom, parce que c'est Samoa Joe. Donc encore une fois, est-ce qu'il est intervenu parce que c'est Sami Zayn et c'est personnel entre eux, ou est-ce qu'il est intervenu parce que collusion entre Owens, Triple H et Samoa Joe? On saura pas, du moins pas ce soir. Après, j'ai bien aimé la façon, le jeu, l'acting de Owens dans le ring, qui fonçait furieux, faisant des cannonballs, il courait dans le ring. Il était à la fois calme mais super destructeur, donc toujours un plaisir de le revoir dans cette partition-là.
Ouais, ça fait plaisir aussi de revoir Kevin Owens comme ça, hein. Méchant, méchant. Et Samoa Joe, c'est le mec qui se bat le mieux en costard, je trouve. Il a vraiment la classe. D'habitude, les gens ils perdent leur chemise et tout. Lui, il était bien, impeccable. Et il a fait un beau passage à tabac comme peu de gens savent le faire. Et par contre, effectivement, Kevin Owens contre Sami Zayn, à chaque fois qu'ils les feront, on se demandera mais pourquoi ils font ça? Parce qu'on les a trop vus, hein, définitivement. Donc il faut une bonne année avant qu'ils s'affrontent
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait,
pour des raisons réelles.
jusqu'à le soi-disant fin de leur rivalité, qui était avant le brand split, ça faisait sens qu'ils aient plein d'affrontements. On les a eu une fois depuis, qui était dans un show pour aucune raison. C'était une erreur. Et là, j'avais peur de voir la même erreur ce soir. Donc, content de voir que Samoa Joe rectifie le booking pourri de Mick Foley, quoi. Voilà.
Exactement, Mick Foley. Où a-t-il la tête? Alors, franchement. Justement, Mick Foley, après un petit hommage à Ivan Koloff, qui nous a quittés aussi, l'archétype du heel, hein, des années 80, un méchant russe. Mick Foley donc se fait engueuler par Steph qui lui dit voilà, t'es pas venu m'aider là dans le ring là quand j'étais avec les filles, qu'est-ce qui se passe? Il dit ah, moi je ça m'a amusé de te voir galérer comme ça. Tu me prends pour un con, faut arrêter, je t'ai dit de ne pas me prendre pour un idiot. Je t'ai fait confiance, moi, quand tu m'as embauché. Samoa Joe, j'étais derrière lui, je faisais confiance aussi. Et maintenant, voilà, Seth Rollins est à l'hôpital. Participera pas à WrestleMania, sûrement. Moi, je ne... Voilà, ça suffit. Je suis pas idiot, fais attention. Je suis en train de bâtir quelque chose ici, vous allez pas tout ruiner, toi et ton mari, pour des querelles d'ego ou je ne sais quoi. Et là, Steph, avant qu'il s'en aille, elle lui répond, écoute, fais attention, parce que là, le sol est pas très stable sous tes pieds,
C'est
ce
glissant.
serait, c'est glissant, il pourrait t'arriver un accident, hein. C'est une menace subtile. Voilà, ce petit développement. Ça te plaît?
Alors bon, je préfère toujours que ce soit un heel affiché comme Stephanie McMahon qui fasse des menaces plutôt qu'un face comme Seth Rollins qui peut-être va aller choper les enfants de Triple H
C'est
pour
ça.
leur faire peur.
Voilà.
Donc ouais, ok. En fait, bon, je pense qu'ils amorcent la sortie de Mick Foley. On va faire un peu de, on va dire jusqu'à va encore dire, mon Dieu, mais t'es allé trop loin, etc. Mais on sait que Mick Foley a une opération de la hanche dans les starting blocks, donc forcément il va être écarté de la télé pendant un petit moment pour sa convalescence. Donc, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à scénariser le fait qu'elle le fasse tomber et qu'il se pète la hanche, kayfabe,
Dans l'escalier.
pour se faire repérer et qu'on aura des
Du piqué, il
vidéos,
chute.
ouais, qu'on aura des vidéos de Mick Foley à l'hôpital et que peut-être que Stéphanie viendra pour le torturer un peu comme faisait Stone Cold à Vince à l'époque. Je sais pas, mais bon, ok. Bon, ouais,
À voir.
il faut séparer cette association un peu contre nature dès le départ. Donc, pourquoi pas que ça se fasse avec un angle et un petit peu de storyline. C'est toujours mieux que, bon, bah, Mick Foley n'est plus là, on va trouver un remplaçant. Autant que ça serve l'histoire.
Ouais, voilà, je pense qu'il prépare sa sortie,
Ouais.
effectivement. C'est marrant quand même, ces patrons là qui menacent leurs employés en direct à la télé. Ça, voilà, c'est pas très subtil, mais bon.
Attends, non. C'est quand même l'employé au début qui est super respectueux avec sa patronne. C'est ça, moi, qui m'a choqué. Mais enfin, ringside.
Enchaînons, enchaînons. On arrive à l'interview de Brock Lesnar. Donc Brock Lesnar interviewé par Michael Cole en studio à ses côtés l'ami ben voilà j'ai plus son nom
Paul Heyman.
Paul Heyman voilà
donc
c'est Paul Heyman qui va parler hein, parce que Michael Cole commence à faire un peu le résumé de la situation alors qu'est-ce qui va se passer si Goldberg gagne contre Kevin Owens ça va être un match à WrestleMania pour la ceinture universelle tout ça Paul Heyman prend la parole il faut faire attention mon client il est tendu il peut partir au quart de tour voilà qu'est-ce qui va se passer entre WrestleMania et Fastlane victoire de Kevin Owens ça peut être envisageable peut-être que Goldberg il peut sous-estimer Kevin Owens etc peut-être que ça peut être l'inverse mais en tout cas de toute façon c'est Brock Lesnar qui s'en sortira c'est lui qui détruira ses adversaires alors il y a toute une mise en scène où voilà ce bon Brock Lesnar se met face à la caméra, califourchon sur une chaise, et on a derrière en fond Paul Heyman pardon qui fait discours alors que Michael Cole a eu peur hein, et s'est mis à l'écart quand Brock Lesnar s'est levé comme ça menaçant. Petite touche d'originalité là sur cette interview. Qu'est-ce que t'as pensé de cet essai de mise en scène là?
C'est quand la WWE fait de l'arrêt essai. Parfois c'est catastrophique, parfois rarement c'est bien, et des fois on sait pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser de ce segment. C'est original. Ok, le texte de Paul Heyman était bien sûr très bien raconté, très bien dit comme il sait le faire, était pas trop mal écrit. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un segment bizarre. Là, tu regardes, tu fais ok, je suis pas sûr de ce que j'ai vu là, mais encore une fois, ça a le mérite d'être original. Hein donc on a toujours trop tendance à avoir des plats réchauffés dans les shows. Donc quand on tente des nouveaux trucs, moi généralement je suis plutôt bon public. Donc ok, j'ai trouvé ça intéressant.
Alors moi exceptionnellement j'ai regardé une partie de ce Raw avec ma copine, dont cette partie.
Okay.
Elle est restée perplexe. Hein. Je l'ai regardée du coin de l'œil parce que même moi je me demandais ce que j'étais en train de regarder. Et j'avoue que ça n'a pas, j'ai pas l'impression que ça ait fonctionné sur un spectateur lambda. Donc voilà, c'est une belle tentative, mais je pense qu'ils sont, ce Brock Lesnar en gros plan, c'est peut-être un peu beaucoup, quoi.
Pour des gens qui suivent le catch et qui connaissent la réputation de Brock Lesnar et ce que peut représenter Brock Lesnar, l'avoir en gros plan qui fixe la caméra, donc qui te fixe toi les yeux et derrière, ça peut peut-être marcher. Peut-être que sur le public plus jeune, des enfants, des adolescents, peut-être que certains ont fait des cauchemars la nuit après, j'en sais rien. J'ai envie de dire, j'espère.
Ouais.
Voilà. Voilà. Après, oui, c'est clair que c'est un peu strange. C'est pas académique, c'est qu'à le dire. Mais encore une fois, quand c'est original, j'ai plutôt envie de dire, ok, j'aime bien qu'ils tentent des trucs. Plutôt qu'il ne tente rien.
Au moins,
rien.
C'est tenté.
Voilà.
Au moins, c'est tenté. Encore une fois, ce verre à moitié plat. Hein,
ouais.
Ce fameux optimiste, Damien Alamba.
Positive attitude, c'est ça.
Alors, du coup, il met un peu le suspense hein, pour Fastlane. Est-ce que Kevin Owens peut effectivement tirer son épingle du jeu et battre Goldberg?
Alors, suspense, du coup, la question, c'est est-ce que Brock Lesnar aurait intérêt à ce que Goldberg gagne à Fastlane, quitte à intervenir d'une façon ou d'une autre afin que leur match soit pour la ceinture, dans l'espoir de la récupérer.
Ouais, ça pourrait être ça aussi.
En termes de logique, je sais pas.
Ouais, c'est... Voilà. Suspense, j'ai envie de dire. Réflexion, plein de pistes. On va avancer. Parce qu'il faut bien arriver au bout. On arrive au main event. Braun Strowman donc, affronte le Big Show. De retour, le Big Show après plusieurs mois d'absence. Donc c'est le Big Show affiné, hein. Il a perdu peut-être 300 kilos. Donc voilà, les deux monstres vont s'affronter. On a une grosse domination de Braun Strowman. Donc là vraiment le Big Show il fait rien hein, pendant le début du match, il fait que encaisser les coups. Maintenant à un moment donné on va tenter une superplexe haut de la troisième corde. Donc là, le public est en feu parce qu'on s'attend à une explosion du ring, hein, sachant qu'ils ont, ils ont resserré le ring avant le début du match. Hein. On a vu les ouvriers s'affairer pour resserrer tout ça. Parce que quand le Big Show affronte un autre Golgoth, généralement, il se peut que le ring ne tienne pas, comme ça a été le cas face à Brock Lesnar ou, je crois, contre Mark Henry à une époque.
Ouais, tout à fait.
Donc voilà, on est à deux doigts de retrouver ce superplexe là, mais finalement c'est contré. Braun Strowman va tenter une descente de la deuxième corde, mais il se prend le knockout punch du Big Show. Donc là, le Big Show fait le tomber, compte de deux, ça suffit pas pour battre Braun Strowman. Donc il va tenter un splash, un Vader splash là, Big Show, Vader bomb plutôt ça s'appelle, pardon. Voilà, il prend appui hein, sur la deuxième corde, il va tenter d'écraser Braun Strowman. Mais au dernier moment, Braun Strowman se relève. Alors il est censé récupérer le Big Show sur son épaule et lui faire le power slam. Malheureusement, c'est complètement loupé. Il se tombe un à côté de l'autre. Alors après, Braun Strowman soulève le Big Show, mais alors il l'a mal, donc il le prend de traviole. Il finit par l'écraser sur le ring. C'est complètement loupé. Mais le public est en feu. This is awesome. Donc voilà, compte de deux, le Big Show doit susurrer à l'oreille de Braun Strowman, écoute, vas-y, on remet ça, c'est pas grave. Et là, Braun Strowman le relève, il le remet sur son épaule, power slam une deuxième fois. Là, c'est le compte de trois et c'est la victoire claire et nette de Braun Strowman, qui a fait carrément qu'une bouchée du Big Show. La foule est en feu et voilà que débarque Roman Reigns, le Big Dog. Il vient régler son compte à Braun Strowman. Mais Braun Strowman, il défonce la gueule de Roman Reigns. Il le contre. Roman Reigns va essayer de lui placer son fameux spear, mais il se fait contrer par un dropkick out of nowhere maintenant de Braun Strowman qui a fait preuve de beaucoup d'agilité ce soir. Hein. Braun Strowman a fait quelques petites pirouettes dans le ring. Voilà, et ensuite un power slam pour bonne mesure. Et voilà, Roman Reigns une nouvelle fois calmé, Braun Strowman une nouvelle fois triomphant. Voilà les images sur lesquelles se termine ce Monday Night Raw. Qu'est-ce que t'as pensé de ce finish de ce main event?
Il y avait, comme tu le dis, moi ce que j'ai retenu surtout, c'est l'agilité étonnante de Braun Strowman. Notamment, je pense que le moment où le public est parti en feu. Jusqu'à la fin du match, si peut-être l'échange des ciseaux somme, alors qu'il n'y avait pas vraiment de chose extraordinaire dans le ring, c'était que, à un moment donné, Braun Strowman est sur le dos, est allé dans le ring, et puis il se relève avec un petit bond, il fait un petit bond, un saut de lion, là, où il retombe sur ses pieds, et là, tout le monde a fait « Wow !» Et même moi, j'ai fait « Oh putain, sérieux ?» Et du coup, il a fait deux, trois trucs, après il prend le bras de Big Show, il lui fait une clé de bras, alors qu'on ne voit jamais faire ça. Et là, tu te dis, ok.
Ah, ils ont commencé par du map wrestling, hein, carrément. Hein.
Ouais. Et là, c'est étonnant. Et je pense que ça a chauffé le public. Et puis, de toute façon, faut pas oublier hein, une chose, hein, c'est que le public de catch, comme Vince, aime bien aussi qu'il y ait deux Golgoth qui s'affrontent, deux mecs qui sont plus grands que nature, qui sont taille XXXXXL. Parce que de suite, c'est la puissance, c'est des vrais mecs, ça va tabasser, etc. Les coups, même s'ils se mettent des coups de poing, des coups de pied comme les autres, ont l'air plus violents, ont l'air plus puissants. Donc c'est un truc qui marche quoi aussi cette formule de gros monstres, donc c'est pour ça je pense que le public était un peu en feu. Le match, moi il y avait des trucs qui étaient impressionnants de voir effectivement déporter, même si c'était foiré sur la fin, le fait que Strowman chope Big Show sur ses épaules pour faire son running pour slam, ok. Le Big Show lui aussi il y avait trois petits trucs, même s'il est beaucoup moins frais, jeune, et performance Strowman il n'a pas démérité, donc l'affrontement, on sait c'est un affrontement de deux gros gars super balèzes, donc c'est pas moi mon style de cash que je préfère. Mais il y avait des choses un peu impressionnantes, ça c'est clair. Et quant à l'arrivée donc de Roman Reigns à la fin, merde, le mec, Strowman, vient de sortir d'un affrontement contre le Big Show. Il s'est pris un knockout punch, il vient de se battre contre le The World Largest Athlete. Et Roman Reigns qui est censé être un gentil, j'arrive pour te finir. Je vais profiter que t'es fatigué et blessé pour t'en mettre plein la gueule. Mais dans quel monde? À limite, tu viens sur la rampe, tu nargues, tu fais « Ok, bravo pour ce soir, mais contre moi, t'as aucune chance. » D'accord. Mais genre « Ok, j'arrive, je couvre le ring pour te finir à la sortie de ton match. » Merde. Ouais, sans déconner, c'est n'importe quoi.
C'est voilà un face valeureux, le héros des enfants, qui vient attaquer un ennemi qui a affronté le World Largest Athlete. Et puis qui a fait un match sans bavure, quoi. Il a pas triché, hein.
Non.
Braun Strowman, il a fait une belle performance. Moi, je l'avais vu en live ce match-là, un petit peu, hein, les entraînements qu'il faisait, hein, parce qu'il le faisait en house show. Quand c'est passé en France, il avait déjà sorti ses petites pirouettes, là, Braun Strowman. Et effectivement, ça, en live, un affrontement des deux Golgoth comme ça, c'était quelque chose. Hein. Moi, c'était un des meilleurs moments de la soirée. Il faut voir le ring trembler à chaque fois que Braun Strowman fait une corde à linge dans les cordes sur le Big Show, là. C'est vraiment mis à rude épreuve quand c'est les deux là qui s'affrontent. Et c'est loin d'être dégueulasse quand même ce qu'ils arrivent à faire. Et on voit que Braun Strowman, il en a quand même sous la pédale, hein, j'ai envie de dire. Il est agile, il est rapide. Ils l'ont souligné, hein, ça, au niveau des commentaires.
Ouais.
Mais on voit qu'on tient quand même un athlète qui est relativement complet, hein, qui est à la fois baraque, et on est loin du Great Khali, quoi. On est sur
Ah oui, non,
quelque
non,
chose
non,
de
non.
costaud. Et voilà, niveau gabarit, il tient la comparaison avec le Big Show, donc
Ouais.
c'est non, non, là ils tiennent.
Puis il sait être joyeux, Braun Strowman, il sait faire de la fête, parce que la première fois qu'on l'a vu à Raw, c'était pas en Braun Strowman, c'était en Rosebud, les espèces de mecs fêtards qui accompagnaient Adam Rose. Donc habillé n'importe comment, vous pouvez chercher sur internet, vous trouverez une photo avec Braun Strowman déguisé en fêtard qui fait
Une photo en Père
pleurer.
Noël aussi qui est assez
Oh.
gratinée. Un athlète complet, un artiste complet, un performeur de talent. Et voilà, face à Roman Reigns, il va peut-être pouvoir remettre à sa place le Samoan, là, que personne n'a réussi à calmer.
Non.
Je croise les doigts pour une victoire de Braun Strowman. Ça peut être un gros match, hein. Il paraît qu'en house show, il commence à les répéter ces matchs-là. C'est mitigé. C'est les retours qu'il y a. Il y en a qui trouvent que c'est très bien, d'autres qui trouvent que c'est pas terrible. Mais bon, il y a les avis sur les matchs de Roman Reigns, c'est un petit peu difficile à savoir, parce qu'il y en a vraiment qui le détestent et que quoi qu'il fasse, ils diront qu'il est nul. Moi, j'ai envie d'y croire à cet affrontement-là. Je pense que ça va être spectaculaire. Voilà. Et puis bon, bah pour le coup, là, ça se finit très bien, ce Monday Night Raw, avec cet affrontement de Golgoth, et puis ce Braun Strowman, encore une fois, triomphant. Ça bave un peu, par contre. Il faudrait qu'il fasse attention à arrêter de se baver dessus comme ça pendant les matchs. C'est pas très cool. Là, pareil, j'étais en train de regarder avec ma copine, elle dit quand même, il pourrait éviter de baver comme ça fait mauvais genre. Mais bon, c'est anecdotique, j'ai envie de
Il
dire.
se nommait l'homme monstrueux, alors voilà, c'est dans son
Bah
gimmick,
oui.
faut l'expliquer.
C'est ça. C'est ça. Ouais, bah après, s'il faut tout expliquer, c'est que quelque part, ça ne marche pas. Voilà ce qu'il en était de ce Monday Night Raw. C'est l'heure de passer au mot de la fin. Il y a le top, il y a le flop, il y a la note. C'est parti, Amiral.
Mon
Quel est ton top, quel
top,
est ton flop, quelle est ta note?
segment d'ouverture, Kevin Owens. Super, rien à dire, génial. J'aime le voir comme ça, j'aime voir le champion universel comme ça, qui continue. Mon flop, les champions par équipe contre un seul gars et on voit qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont plus faibles que lui. C'est desservir la ceinture, enfin les ceintures pour le coup par équipe et voilà, et on n'a pas besoin de ça. Ma note,
Non.
je dirais 3. 3, 3,25. On va dire
3.
3 parce que 3,25 ça veut rien dire, mais 3, ouais. Un bon 3.
Ok. Bon, moi, l'analyse, tu m'as un peu convaincu, mais au visionnage, j'étais pas très très emballé. Mon flop, c'est Big Cass, que j'ai trouvé peu convaincant. Comme j'ai expliqué un peu plus tôt, bah, j'espère qu'il va se reprendre un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu usé physiquement, qu'il a un petit peu du mal à suivre le rythme de la WWE. On verra bien. Mon top, c'est Charlie Caruso, qui était vraiment magnifique ce soir, et j'en redemande. Ma note,
C'est pour ça que ta copine elle a pas aimé. Elle a vu que
Ah, peut-être, maintenant
t'étais
que
tout
tu le dis,
souriant dès qu'il y
ça a
avait
dû se
Charlie
voir sur
Caruso à
mon
l'écran.
visage.
Elle avait, mais attends, mais c'est pour ça qu'il regarde ses émissions en fait. C'est pas pour ce qui se passe dans les histoires dans le ring. C'est juste pour l'intervieweuse avec ses jumeaux. D'accord.
C'est
Bravo.
ça. Mais il n'y a rien qui m'a réellement emballé, en fait, hein.
Ouais.
de tout le show, à part peut-être ce main event qui était le plus attendu.
Et donc ta note,
Kevin Owens, j'ai trouvé. Pardon?
Et donc ta note, c'est quoi au final?
Et ma note, ouais, on va peut-être pas refaire le monde. Je vais mettre deux.
Ah ouais.
Un peu moins bien que la moyenne. Ouais, non, je suis méchant sur cet épisode. C'est... Ouais, je me suis ennuyé en le regardant, et quand je m'ennuie, je suis obligé de mettre en dessous de la moyenne.
D'accord, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même supérieur à sur les 10 précédents rounds, il est parmi ceux qui sont les moins mauvais, quoi. Pas comme celui de la semaine dernière qui était vraiment bon, mais en moyenne, j'ai l'impression qu'on voit pire que ça, quoi.
Ouais, c'est peut-être la redescente par rapport à la semaine dernière, mais je sais pas, il y a pas eu d'étincelle, je trouve que tout était convenu, tout était et puis il y a pas eu de surprise, il y a pas eu de fun. Ça manquait de fun.
C'était pas le festival de l'amitié, c'est pour ça.
C'était trop écrit.
C'est fini le festival de l'amitié, le fun est terminé, ouais, Jericho et Owen sont plus potes.
C'est la dépression.
Mais ouais.
Voilà, mais c'est pas grave, ils vont se reprendre la semaine prochaine. Puis de toute façon, il faut qu'on voit ce système de notes parce qu'il tient pas la route. voilà ce qu'il en est de Monday Night Raw. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur la chaîne YouTube des Cahiers du Catch. On est sur iTunes, on est sur PodCloud pour les versions audio. On est sur Twitter, CatchUpCDC. On est sur Facebook, CatchUpCDC. Venez vous abonner à YouTube. Venez sur les Cahiers du Catch, participer au forum. N'oubliez pas le supplément SmackDown. Si vous êtes abonné, vous serez informé de la sortie du supplément. Ça sera incessamment sous peu. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez maintenant. Hein, ça suffit les conneries. Et voilà, Miral, je te remercie beaucoup.
Mais un plaisir.
Pour ta participation à l'international. Hein. Passe le bonjour au Mali et à tous les habitants. Et puis les amis, moi je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao.
Salut.